Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Alors, ce matin, allons dans Romains chapitre 12. Si vous voulez bien, si vous avez besoin d'une Bible, on peut vous en prêter une. Romains 12, et au verset 2, j'aimerais poursuivre un petit peu ce qu'on a commencé ensemble la semaine dernière. Et on a parlé rénovation mentale. Moi, je ressens vraiment dans l'esprit qu'on va, on va encore avancer là-dedans, et je pense que ça va devenir une série de messages. Mais la semaine dernière, on a commencé à voir un peu ce que Dieu nous disait, hein, au sujet de cette rénovation mentale, si on peut dire, et on a vu plusieurs vérités ensemble. Mais avant, je voudrais qu'on lise quand même ce passage, si vous voulez bien, qui nous sert de référence, dans Romains, chapitre 12, et au verset 2. Il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, on a vu ensemble que l'idée de Dieu, ce n'est pas que nous soyons conformés à juste un moule, un plan, un modèle, mais c'est que nous puissions être transformés en ayant une intelligence qui se renouvelle. Et on a vu que ce monde cherche à faire pression sur nous pour nous faire entrer dans justement un moule, nous faire entrer dans un modèle pour qu'on parle d'une certaine façon, on s'habille d'une certaine façon, on se comporte d'une certaine façon. Il y a des standards que le monde essaye de nous imposer. Mais Dieu, lui, n'attend pas de nous, ses enfants, que nous soyons seulement en train de nous conformer aux standards du monde, mais il nous dit au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on a vu que transformer, ça voulait littéralement dire métamorphoser. Et la métamorphose, c'est ce processus qui fait d'une chenille un papillon. Et c'est, on dit, mais si vous renouvelez votre intelligence, votre vie peut être complètement transformée, métamorphosée. C'est intéressant comme programme, n'est-ce pas? Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, hein, je vous rappelle, j'ai mis ça en parallèle avec ce terme justement rénovation. Et quand on rénove par exemple une maison ou un endroit, il y a des choses qu'on va devoir enlever, arracher, et puis on va mettre d'autres choses à la place, qui sont de bonnes choses, qui sont efficaces et qui nous amènent dans une position meilleure. Et Dieu se révèle à nous dans sa parole et on voit combien les pensées sont quelque chose d'important, d'essentiel. Et la semaine dernière, on avait particulièrement mis l'accent sur ce que j'avais appelé nos images intérieures. On avait vu comment, avant qu'une chose n'existe, eh bien, elle procède d'abord d'une pensée. Vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'un potier va faire un vase, bah, dans un premier temps, il y a juste un peu d'argile, quelque chose qui n'a pas de forme, et qu'il prend, qu'il met sur son tour, et qu'il va travailler. Et si pour nous, qui pouvons être spectateurs de cette scène, le vase n'existe pas encore, il y a juste un tas d'argile, mais dans la tête, dans la pensée du potier, le vase existe déjà. Et on a vu comment nos images intérieures vont aussi nous amener à vivre certaines choses. Je vous rappelle que nous nous portons vers ce qui est l'objet de nos pensées. On a vu dans plusieurs versets de la parole que ce que nous contemplons, c'est ce que nous devenons. On a vu plusieurs fois dans la parole que, à force de penser certaines choses, penser certaines directions, ce sont ces choses-là que nous allons attirer à se manifester dans notre vie. Et je ne veux pas reprendre tous les passages qu'on a vus. Mais évidemment, on comprend qu'il y a des pensées qui sont bonnes et qui vont nous faire progresser, mais autant qu'il y a des pensées qui sont dangereuses, puisque nous allons nous porter vers ce que nous pensons. Et on a regardé toutes ces choses-là ensemble et on a laissé vraiment le Saint-Esprit nous toucher aussi. Il y avait vraiment une atmosphère particulière et merci Seigneur pour ça, parce que souvent on en a besoin, où le Saint-Esprit nous a touchés à retravailler notre image intérieure sur plusieurs choses. Le Seigneur nous a guéris avec parfois notre image. Le Seigneur nous a rappelé l'importance que nous avons pour lui, le fait que nous sommes uniques, etc. Et c'est très bon. Et je crois, et sinon je vous encourage vraiment à le faire, que vous avez commencé à réfléchir et à travailler votre image intérieure. J'espère que vous avez commencé à vous voir dans la situation dans laquelle vous aimeriez être. J'espère que vous avez commencé à vous voir réussir. Vous avez commencé à vous voir obtenir une chose que vous attendez. Vous avez commencé à vous voir dans la maison que vous aimeriez avoir. Vous avez commencé à vous voir conduire la voiture dont vous avez besoin. Vous avez commencé à vous voir dans une activité dont vous avez envie, à vous voir marié avec des enfants ou tout autre rêve qui soit dans votre cœur. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ce sont des réalités, ce sont des paroles de Dieu. Nous avons pris le temps la semaine dernière d'insister un peu sur nos images intérieures et je vous encourage à laisser Dieu vraiment vous travailler, à nourrir une image de Dieu. Vous rappelez qu'Abraham, lorsque Dieu lui a donné sa promesse d'avoir une grande descendance, Dieu lui a dit « Sors et regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, et ta descendance sera comme les étoiles du ciel. » Donc Dieu avait lui-même mis l'importance pour Abraham de regarder sa promesse, d'avoir une image de sa vision, de sa promesse, de telle sorte que lorsqu'Abraham serait découragé ou en difficulté, il pourrait se rappeler de l'image concrète des étoiles, d'un ciel rempli de dire « Waouh, ça c'est ma descendance, ça c'est ma promesse. » Quand Josué a été appelé à prendre la suite de Moïse pour entrer dans le pays, Dieu leur a donné une image et leur a dit « Voilà, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Dieu les a envoyés espionner le pays et ils ont pu se nourrir de cette image. Et je pense que Josué était là avec l'image en lui-même. Il y a ce bon pays où il y a des fruits tels qu'on n'en trouve nulle part ailleurs, où il y a des bonnes choses, où il y a le lait, le miel, il y a des verts pâturages pour qu'on puisse s'établir. Et Josué conduisait le peuple avec cette image à l'esprit. Et ils sont entrés dans leur promesse. Ils ont surmonté tous les obstacles, toutes les difficultés. Ils avaient l'image et ils se sont portés vers ce qu'ils nourrissaient dans leurs pensées. Et ce matin, je voudrais continuer encore un petit peu dans cette même vérité sous un aspect différent parce que je crois qu'on a vraiment besoin de mettre l'accent et d'insister. D'insister là-dessus pour que les choses soient claires dans nos esprits et que Dieu puisse vraiment nous travailler. Vous savez, on a dans ce monde un flot de pensées, un flot de façon de réfléchir, de mentalité qui circule autour de nous. Et très souvent, on entend des paroles négatives, on entend des paroles défaitistes, on entend des choses qui ne sont pas vraiment encourageantes. Et tout cela, on l'entend abondamment à longueur de journée. Je ne sais pas si vous écoutez un peu ce qui se dit autour de vous. Et à longueur de temps, on entend des gens qui disent « Oui, mais ça, c'est impossible. Mais ça, ça ne marchera pas. Mais ça, c'est pas si facile. Mais ça, c'est difficile. Mais ça, c'est pas possible, etc. » Mais on sait déjà que beaucoup de choses ne vont pas bien. On sait que ce monde ne tourne pas correctement, on sait que l'économie est en difficulté, on sait qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent, on sait beaucoup de choses. Mais le Seigneur voudrait que nous ne puissions pas seulement nourrir nos pensées de tout cela, mais que nous puissions le laisser par son esprit renouveler nos pensées et ainsi nous nourrir de ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de pouvoir se rencontrer avec d'autres chrétiens, de pouvoir semer les uns dans les autres des paroles de foi, des paroles d'avenir, des paroles d'espérance, d'entendre la parole de Dieu qui est positive. Quand toute la semaine dans le monde ou même au travail, on entend que tu ne peux pas si, que ça c'est pas possible, que ça c'est difficile, que ça c'est comme ça, c'est bon quand on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse parler autre chose, qu'on puisse donner un autre rapport, qu'on puisse semer les uns dans les autres la foi, la vie, la confiance en Dieu, l'espérance. Et c'est pour ça que très souvent, dimanche après dimanche, je vous répète peut-être les mêmes choses, mais nous en avons besoin. Moi, je préfère passer mon temps à vous dire que Dieu est bon, que Dieu vous aime, que vous avez sa faveur, que vous êtes son chef-d'œuvre, qu'il vous a créé pour réussir et tout cela, parce que c'est vrai, c'est la parole de Dieu, et nous avons besoin de nourrir nos pensées de ces choses-là, parce que ce que nous nourrissons dans nos pensées, c'est ce vers quoi nous nous portons. Si vous voulez réussir physiquement, naturellement, vous devez commencer par réussir mentalement. Si vous voulez prospérer dans la vie, vous devez commencer par prospérer mentalement, prospérer dans votre tête. Si même si vous voulez que votre corps soit guéri, vous devez commencer par guérir dans votre tête. Vous devez commencer par vous voir guéri, par vous voir faire ce que vous ne pouviez pas faire. Ça, c'est ce que Dieu nous a enseigné. Je voudrais continuer. Aujourd'hui, j'intitulerai cette deuxième partie, si on veut, connecté par nos pensées. Et je voudrais vous montrer que ce que nous pensons nous connecte à quelque chose. Ce sur quoi nous laissons nos pensées se fixer va ouvrir notre esprit à cette chose et à sa source. Mais prenons le temps d'avancer doucement. Je vous rappelle qu'à la nouvelle naissance, notre esprit a été recréé, mais pas nos pensées, pas notre âme. Et Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, faites quelque chose pour le salut de votre âme. Faites quelque chose pour que votre intelligence puisse être au niveau où je désire qu'elle soit en tant qu'enfant de Dieu, née de nouveau et renouvelée. Donc on a besoin de cette rénovation mentale. Et on voit dans la parole de Dieu comment nos pensées ont de la valeur et de l'importance. Par exemple, au psaume 139, vous n'êtes pas obligé de chercher, mais la Bible nous dit que avant même que nous l'ayons en tête, Dieu connaît déjà nos pensées. Et avant que nous ne disions une parole, il sait déjà ce que nous allons dire. Si Dieu prend le soin de connaître chacune de nos pensées et de nos paroles, c'est qu'elles ont une importance. Et combien de fois la Bible nous dit « voilà ce qui devrait être l'objet de vos pensées » et on y viendra, je pense, plus tard dans cette série. La Bible nous dit « mais aspirez aux choses d'en haut, soupirez après les choses d'en haut, méditez les bienfaits de Dieu, méditez sur la parole ». La Bible nous encourage à aligner nos pensées parce que nos pensées sont d'une importance capitale. Parce que tout commence dans une pensée. Nous connaissons, nous avons étudié déjà ensemble plusieurs fois l'importance et l'impact de nos paroles. Mais je vous rappelle, nos paroles, c'est simplement le véhicule d'une pensée. Donc si nous voulons orienter nos paroles correctement, il nous faut déjà positionner nos pensées correctement. Alors, tournons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et au verset 5. Et c'est un passage que j'ai médité en début de semaine après justement ce message sur la rénovation mentale et nos images intérieures. Vous savez, j'étais content de ce que le Seigneur avait fait parmi nous dimanche et j'en suis toujours content parce qu'il fait de bonnes choses. Mais en même temps, je sentais qu'il voulait aller plus loin. Et j'avais ce verset qui n'arrêtait pas de revenir et alors que je méditais dessus, on va le lire ensemble, le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose. Romains chapitre 8 et au verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et quand j'ai lu ça et j'ai pensé à ça, je me suis dit, il y a quelque chose dans ce verset. Et j'en ai même un peu parlé avec Sophie, j'ai dit, mais l'affection, c'est quoi? Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ou ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit? Car l'affection de la chair est inimitié, car l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et j'ai réfléchi à tout ça et pour moi, il m'est apparu clairement qu'il était question de nos pensées. Et finalement, la Bible nous dit ici que ceux qui pensent selon la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, c'est-à-dire ceux qui ont leurs pensées sur des choses charnelles et ceux qui ont leurs pensées sur des choses spirituelles vont dans deux directions différentes parce que la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et j'ai été vraiment rassuré, j'ai vraiment béni Dieu quand j'ai été chercher un petit peu d'autres versions de la Bible. Vous savez, de temps en temps, quand vous avez un passage comme ça que vous méditez, ça peut être intéressant de rechercher d'autres versions. Je ne vais pas faire une histoire de la Bible, mais on sait qu'il y a différentes versions aujourd'hui, dont certaines sont plus ou moins proches de l'original. On a des versions les plus générales. En général, c'est les versions Louis II qui nous permettent d'avoir un texte équilibré entre le sens original et puis un français quand même qui est à la portée de chacun. Et puis, on a des versions qui sont plus faciles à comprendre, comme par exemple la version en français courant ou d'autres Bibles encore. Et on a d'autres versions qui sont beaucoup plus proches du texte et qui, quelquefois, sont un peu compliquées avec parfois des mots pas très clairs, mais en tout cas qui remettent plus en avant le sens original du texte. Je rappelle, la Bible a été écrite en grec et en araméen. Donc, ce sont des langages que, bien sûr, nous ne parlons pas tous. C'est pour ça que la Bible est traduite dans différentes langues et qu'une traduction n'est pas toujours parfaite à 100%. Donc c'est important de se rapprocher le plus possible du texte et de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et donc j'ai cherché un petit peu pour avoir le cœur net là-dessus, parce que moi j'aime pas fonctionner par supposition. Moi je travaille par connaissance et par révélation, pas par supposition. Quand je suis pas sûr, je vous dis, je pense que, mais je suis pas sûr. Mais quand Dieu vous dit quelque chose, allez chercher et voyez si c'est une révélation qui va établir une connaissance en vous. Et je bénis Dieu parce que c'est une révélation pour moi, peut-être que pour quelqu'un c'est évident. Mais pour moi, c'est une révélation. Et dans cette version donc, que j'ai choisie, qui est la version Darby, qui est très proche de l'original en français, ce même verset nous dit « Car ceux qui, selon la chair, ont leur pensée sur les choses de la chair, et ceux qui, selon l'esprit, ont leur pensée sur les choses de l'esprit, car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Parce que la pensée de la chair, c'est une inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Bon, la structure de la phrase elle-même est un peu compliquée, mais en tout cas, ils utilisent exactement ce terme. Ils disent « car les pensées de la chair, c'est la mort. Et les pensées de l'esprit, c'est la vie. » Et je crois qu'en lisant une chose comme ça, on devrait vraiment prendre la responsabilité de ce qui fait l'objet de nos pensées. Ce que j'aimerais ce matin vous montrer ici, c'est que vos pensées, c'est une question de vie ou de mort. Ce que je laisse accéder et nourrir dans mes pensées, les pensées auxquelles je laisse accès, les pensées que je nourris, les visions sur lesquelles je médite, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas juste quelque chose d'anodin comme ça. Certes, la pensée, c'est quelque chose qu'on peut pas toucher. D'accord? C'est pas du domaine physique ou naturel, mais ça a une puissance. Lorsque je pense certaines choses, je suis en train de mettre en place un processus qui va amener ces choses à l'existence. Et la Bible nous dit que la pensée de la chair, c'est la mort. Et la pensée de l'esprit, c'est la vie. Et j'aimerais qu'on regarde un autre passage dans Hébreux chapitre 4 et au verset 12, s'il vous plaît. Hébreux 4, 12, Saint-Esprit, je te demande vraiment de nous assister ce matin pour que je puisse exposer correctement ces vérités, Seigneur, et que nos cœurs soient réceptifs et saisissent la profondeur de ce que tu veux nous parler. Père, nous ne voulons pas juste écouter à la légère, mais nous voulons recevoir, être transformés par ta parole. Hébreux 4, 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Plus qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je reviens encore une fois à la version Darby. Il est dit « La parole de Dieu est vivante et opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Et permettez-moi de lire encore une autre version, c'est la Français courant, où il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Et la vérité que je veux mettre en évidence ici, et que la parole de Dieu met en évidence, c'est qu'il y a un endroit où l'esprit et l'âme se touchent. Il y a un endroit où notre esprit et notre âme communiquent, se rencontrent. Je vous rappelle que nous avons été créés par Dieu, esprit, âme et corps. Je ne vais pas prendre le temps de tout réexpliquer ici, mais notre esprit, c'est qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une âme avec notre intelligence, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, et puis nous vivons dans un corps physique. Et on voit ici que Dieu nous montre qu'il y a une connexion entre l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que ma partie spirituelle, là où Dieu me parle, là où le Saint-Esprit rend témoignage de la vérité de Dieu, est connectée quelque part avec mon âme, c'est-à-dire avec mon intelligence, mes émotions, ma volonté. Et s'il y a une connexion, un endroit où mon esprit et mon âme se rencontrent, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça vient nous confirmer que quand Dieu nous dit de méditer sur lui, de méditer sa parole, de recevoir les paroles du Saint-Esprit, quand Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et finalement nous le savons dans notre tête, dans notre intelligence, eh bien ce qui vient de Dieu dans notre esprit peut se communiquer à notre âme et transformer notre être entier. Mais de la même façon, nous voyons qu'il y a un danger à ce que nous mettons dans notre âme. C'est-à-dire que ce que vous méditez, ce sur quoi vous réfléchissez, ce que vous nourrissez dans vos pensées, c'est-à-dire dans votre âme, à un moment donné, va avoir accès à votre esprit. Vous me suivez? Il faut très bien me suivre, hein, parce que c'est peut-être simple comme ça, mais c'est une vérité que nous devons saisir, parce que Dieu veut vraiment nous amener à cette rénovation mentale, un vrai changement. Moi, ça fait des années que je suis chrétien, que j'entends des messages et que j'entends parler de renouvellement de l'intelligence et que je prie et tout ça. Mais je crois que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, qui va nous amener à une réelle métamorphose. Qui va pas juste nous amener à répéter les mêmes formules que le pasteur a répétées, qui va pas nous amener juste à essayer de penser comme les autres chrétiens pensent, mais qui va nous amener profondément à être totalement transformés, métamorphosés, et à ce que la pensée de Dieu puisse être communiquée à notre esprit rentrer dans notre pensée, et de notre pensée nous amener à produire des actes inspirés de Dieu, qui amènent la gloire de Dieu. qui amène l'efficacité, la puissance de Dieu, qui manifeste le royaume. Donc, je répète, notre âme et notre esprit sont connectés. Il y a un endroit où ils se touchent. Je ne l'invente pas, on vient de le lire dans la Bible. Donc, ce que je mets dans mon âme, c'est effectivement une question de vie et de mort. Ce que je médite, ce que je pense, ce que je réfléchis, ce que je nourris va influencer mon être entier. En fait, nos pensées, elles agissent comme un connecteur. Il y a l'image de ce que nous avons lu juste avant dans Romains 8. Si nous avons la pensée de l'esprit, ça va amener la vie dans notre esprit. Mais par contre, si nous restons dans la pensée de la chair, ça va amener la mort dans notre être entier. Pourquoi ? Parce que nos pensées nous connectent à ce qui est l'objet de nos pensées. Lorsque vous pensez qu'il peut y avoir un danger quelque part, ou lorsque vous pensez que parce qu'il fait noir dans la maison, il pourrait vous arriver quelque chose et on pourrait vous faire quelque chose, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez ça ? Au début, vous pensez ça comme ça, mais ensuite, vous commencez à développer la peur. Vous commencez à développer une émotion, un sentiment, et vous commencez à agir par peur, et ça conduit même les gens à la panique. Même quand il y a un problème quelque part et que peut-être il y a une alarme d'évacuation qui s'allume, on commence à penser quelque chose, il se passe quelque chose de grave, je suis en danger, je ne vais pas m'en sortir, c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait ? On panique, on perd ses moyens. Parce que cette pensée a amené en nous quelque chose. Et ça nous a connectés à la peur. De la même façon que si je pense ce que Dieu dit, si je médite sur ce que Dieu dit, cette pensée-là va me connecter à la promesse de Dieu. Cette pensée va me connecter au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes là à chanter des cantiques, à prier, à parler de la Bible et à réfléchir à ces choses-là, qu'est-ce qui se passe ? Nous nous connectons à la présence de Dieu. Et nous pouvons même ressentir cette présence, nous pouvons ressentir quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que par nos pensées, nous nous connectons à ce qui est l'objet de nos pensées. Et quand nous sommes en train de réfléchir et de faire ce qu'on appelle broyer du noir, nous nous connectons aussi à des pensées qui vont nous amener à la dépression, à la destruction. Nos pensées agissent comme un connecteur. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que je développe la pensée de l'esprit ? Ou est-ce que je reste dans la pensée de la chair ? Est-ce que je serai conduit vers la vie ? Ou est-ce que je serai conduit vers la mort ? Et je vais montrer plusieurs exemples dans la parole. Si vous êtes rapide, vous pourrez suivre avec moi. Mais de comment les pensées charnelles, humaines, conduisent au mal et à la mort. Et on le voit plusieurs fois dans les Écritures. Et bien sûr, dès le premier péché dans la Genèse, Satan vient amener une pensée à Adam et Ève en leur disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais est-ce que Dieu ne vous aurait pas juste dit ça parce que si vous mangez le fruit, vous seriez comme lui ? Ça a commencé par une pensée. Et cette pensée les a conduits à manger ce fruit et finalement à être déconnectés du plan de Dieu, à être exclus du jardin et à devoir maintenant entrer dans un autre fonctionnement. Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit que « Toutes les pensées des hommes étaient constamment tournées vers le mal ». Toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal. Résultat, ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Résultat, ça les a conduits à la destruction. Dieu a été obligé d'envoyer un déluge pour détruire la terre parce que ce n'était plus soutenable. Psaume 54. Et au verset 5. Il est dit « Des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. » Donc quand quelqu'un ne porte pas ses pensées sur Dieu, ça va le conduire à vouloir du mal aux autres, à en vouloir à la vie de quelqu'un, pardon, à être violent, à être méchant. Proverbe 16. Et si vous avez un peu de temps chez vous, si vous avez ce qu'on appelle une concordance, ou si vous avez internet, cherchez une concordance, cherchez le mot « pensée » et regardez un petit peu tout ce que la parole de Dieu peut dire au sujet des pensées. Et vous allez voir que c'est très très instructif. Proverbe 16, verset 30. Il est écrit « Celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Est-ce que les pensées sont importantes? Est-ce que ce que nous pensons fait une différence? La Bible déclare que celui qui ferme ses yeux pour penser à des choses perverses, et pardonnez-moi, mais messieurs, lorsque nous fermons les yeux en pensant à ce que nous pourrions faire avec la jeune fille intéressante que nous venons de croiser, nous avons déjà consommé le mal. Et mesdames, c'est valable aussi. Maintenant, ne soyons pas condamnés non plus et ne nous méprenons pas. Il y a une différence entre se livrer à certaines pensées, c'est-à-dire volontairement demeurer sur ses pensées, les nourrir, ce qui revient à poser un acte et donc pour Dieu à avoir péché, et juste avoir une pensée qui traverse notre esprit mais que nous pouvons rejeter. Quelqu'un disait que tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire un nid. Donc Dieu ne va pas nous juger ou nous condamner à cause d'une pensée volatile, mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce genre de pensée reste des pensées volatiles. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que lorsqu'une pensée arrive et que nous en sommes à peut-être vouloir convoiter quelque chose, la pensée arrive, nous devons immédiatement la rejeter. Nous dire non, je ne veux pas nourrir cette pensée. C'est pareil pour le mensonge. Je suis dans une situation, je me dis mince, pour m'en sortir, il faudrait que j'invente une histoire. Tiens, tu pourrais raconter tel mensonge. La pensée arrive comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte ou pas? Le fait que nous ayons des pensées qui passent, Dieu ne nous condamne pas pour cela. Mais Dieu nous condamne lorsque nous accueillons des pensées qui n'ont pas leur place. Une pensée qui passe, c'est une chose, mais tu as la responsabilité de laisser l'accès ou pas à des pensées dans ton esprit. Tu as la responsabilité de rejeter les pensées qui vont te conduire au mal et à la mort et d'accueillir à la place les pensées de Dieu qui amènent la vie. Parce qu'il y a un moment, il y a une frontière qui est extrêmement fine, mais que nous devons considérer. Avoir une pensée n'est pas un péché, mais nourrir une pensée, c'est déjà avoir péché. Alors vous allez me dire, j'espère que vous saisissez la nuance, il y a une nuance. Une pensée comme ça, c'est une chose. Mais quand tu accueilles cette pensée, que tu fermes les yeux pour te livrer à cette pensée, c'est comme si tu avais fait la chose. Et là, le diable nous trompe avec une espèce de fausse grâce de Dieu poussée à l'extrême. Moi, je dis déjà, c'est extraordinaire que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir avoir une mauvaise pensée qui passe et de ne pas l'accueillir et de ne pas être condamné pour ça. Mais parce que Dieu sait qu'il y a toute une activité spirituelle. Dieu sait qu'il y a toute une activité de l'ennemi qui cherche à atteindre nos pensées pour nous déconnecter du plan de Dieu. Mais nous avons la responsabilité d'accepter ou pas certaines pensées. Donc les pensées de la chair, les pensées humaines, les pensées du cœur de l'homme vont le conduire au mal et à la mort. Matthieu 15, verset 19 encore. Je veux vraiment établir ces vérités. Vous savez, j'ai moi-même l'impression qu'on n'avance pas très vite dans ces messages parce que souvent j'aime bien avancer puis point A, point B, point C et il y a une progression et puis on se réjouit. Mais des fois, il faut vraiment prendre le temps que les choses s'inscrivent dans nos cœurs et que cette parole puisse vraiment être au clair pour vraiment nous transformer. Donc, vous inquiétez pas, on viendra quand le jour opportun sera venu sur ce que nous devrions mettre dans nos pensées, sur les instructions pratiques de la parole. Mais pour l'instant, on a encore besoin de comprendre l'importance de faire quelque chose au sujet de nos pensées, l'importance de ce que nous laissons ou pas entrer dans nos pensées. Matthieu 15, au verset 19, Jésus dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc bien sûr, il faisait une comparaison avec d'autres rites religieux. On disait que c'est scandaleux de manger sans s'être lavé les mains. Mais n'empêche qu'il nous donne une vérité. Il dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc la pensée humaine, la pensée charnelle va nous conduire à ces choses-là. Donc nous avons besoin d'une rénovation mentale, d'un renouvellement de nos pensées pour ne plus seulement évoluer au niveau de la pensée charnelle qui nous amène au péché, à la mort, à la destruction, mais pour adopter une pensée spirituelle, la pensée de l'esprit qui nous amène à la vie, à la pureté, à la sainteté. Matthieu 16, 23, juste un petit peu plus loin. Jésus annonce à ses disciples qu'il devrait être livré, qu'il allait être crucifié. Et vous connaissez cette histoire et Pierre lui dit, verset 22, donc Pierre dit à Jésus, « Mais à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et on connaît bien cet épisode, et on aime bien utiliser, parce que on a vu ça dans plusieurs contextes, et on dit « Va des rétros, Satanas, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Dieu dit cela, quand Jésus, pardon, répond ça à Pierre, Jésus identifie ce qui se trouve derrière la pensée de Pierre. Pierre pensait bien faire en disant à Jésus, mais non, ils vont pas te prendre, ils vont pas te livrer, tu es notre maître, tu es plus fort, tu vas pas mourir. C'était la pensée humaine, charnelle, qu'on pouvait comprendre. Jésus aurait pu ne pas être livré, il était pur, il était juste, il avait rien fait de mal. Mais c'était pas la pensée de Dieu, puisque Dieu avait prévu que Jésus servirait de sacrifice expiatoire à notre place. Et Jésus ne va pas seulement dire, Pierre, arrête, tu as tort de penser comme ça. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Vos pensées vous connectent à leur objet et à leur source. Quand vous pensez les pensées de Dieu, vous êtes connecté à Dieu. Quand vous pensez les pensées du monde, vous vous connectez au diable. Quand je pense certaines pensées, c'est-à-dire que je me mets d'accord avec celui qui a émis cette pensée, c'est-à-dire que quand je pense en termes d'impossibilité, de défaite, de destruction, je me mets d'accord avec celui dont la Bible dit qu'il n'est venu que pour égorger, voler, détruire. Et celui-là, c'est qui? C'est le diable. Donc quand je me mets d'accord avec lui, je me connecte à lui. Mais quand je nourris la pensée de Dieu, que je suis capable, que j'ai été oint pour de bonnes œuvres, qu'il y a des œuvres bonnes préparées d'avance pour moi, que j'ai un avenir et une espérance, je me mets d'accord avec Dieu, je me connecte à Dieu. Et du coup, la vie de Dieu peut couler dans ma vie. Quand vous nourrissez une pensée, vous ouvrez votre esprit et vous vous connectez à la source de cette pensée. Je sais que je dis des choses graves, mais je prie vraiment que ça entre dans nos cœurs et qu'on prenne conscience, parce que c'est des réalités. C'est pas juste un truc comme ça, je pense comme ça, je dis comme ça. Quand je pense des pensées contraires à la pensée de Dieu, je me connecte au diable. Je me mets d'accord avec lui, je lui donne la main. Je me mets dans son camp. Et même si bien sûr mon esprit qui est né de nouveau, qui a été régénéré, ne va pas retomber dans la destruction éternelle, puisque Christ m'a sauvé et je suis chrétien, peut-être je vais à l'église, mais par mes pensées, je donne au diable un accès à mes pensées. Vos pensées constituent un connecteur, vos pensées donnent des prises. Quand je pense conformément à la pensée de Dieu, je donne des prises à Dieu, c'est-à-dire je donne à Dieu accès à mon être et à sa vie de couler dans ma vie, car la pensée de l'esprit, c'est la vie. Mais quand je nourris des pensées de destruction, de mal, de meurtre, de tromperie, de vol, de mort, d'impossibilité, toutes ces choses-là, je donne une prise à l'ennemi, autrement dit, je donne à l'ennemi un accès, j'ouvre une porte, et c'est la mort qui entre en moi, avec juste une pensée. Nous sommes connectés par nos pensées. Quand je pense à quelque chose, que je reste fixé sur cette pensée, je deviens conscient de cette chose. Et on peut même en ressentir l'effet. Rappelez-vous, je vous ai montré brièvement la semaine dernière que il vous suffit parfois de penser à un bon souvenir, à quelque chose de bon qu'on a fait pour vous, ou à un jour qui va arriver où vous avez une fête en prévision, il y a un bel événement devant vous. Il vous suffit parfois d'y penser pour déjà sentir la joie dans votre être entier. De la même façon qu'il vous suffit de penser à un jour triste, à quelque chose de difficile pour parfois avoir une larme qui coule sur vos visages, avec juste une pensée. Pourquoi? Parce que la pensée vous connecte à la chose. Si les gens réalisaient, même si nous réalisions, ce à quoi nous nous connectons avec nos pensées, si le Saint-Esprit ouvrait juste nos yeux pour donner l'image de ce à quoi nous, à qui nous donnons la main quand nous pensons certaines choses, je crois qu'on aurait envie de courir et de prendre plusieurs douches et de se désinfecter autant qu'on pourrait. Ta mauvaise pensée te connecte. Donc tu peux pas te contenter. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je peux pas faire autrement que d'y penser. Je ne peux que penser comme ça. » Non, tu ne peux pas. Tu as le choix. Tu as le choix de ce que tu penses. Tu as le choix de ce dont on nourrit tes pensées. Tu ne peux pas empêcher ces pensées de tourner autour de ta tête, mais par contre tu peux choisir qu'elles n'entrent pas. Et tu peux choisir de nourrir à la place la pensée de Dieu. Et la Bible nous conduit à nous affectionner aux choses d'en haut, à les rechercher, à y penser. Donc quand une mauvaise pensée se présente, nous devons apprendre à la rejeter et à mettre à la place la pensée de Dieu. Quand une mauvaise pensée arrive, non, nous la refusons et nous disons ce que Dieu dit à ce sujet. quand je commence à développer des symptômes, comme ça m'arrivait cette semaine, parce que j'étais très fatigué, je commençais à avoir mal à la gorge, à tousser, même à avoir le rhume pendant quelques jours. Et plusieurs fois, la pensée est venue, ah, tu vas être malade. C'est pas le moment que tu sois malade, tu te rends compte, t'as beaucoup de boulot, tu vas te retrouver cloué au lit, il y a la fièvre qui va monter, et tu te rappelles quand tu avais l'habitude de tomber malade régulièrement, parce qu'avant, je tombais malade régulièrement, et j'ai dû mener un combat dans mes pensées, en disant non, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Non, ce sont pas mes symptômes qui disent ce qu'il en est, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit que je suis en bonne santé. Dieu a déjà pourvu à ma guérison. Et le sang de Christ me protège et me purifie. Et résultat, j'ai eu ces quelques symptômes. Là, ça va déjà bien mieux. C'est quasiment 100% bon. Mais en tout cas, je ne suis pas tombé sérieusement malade. Là où j'aurais pu tomber malade en cédant à ces pensées qui disaient que la suite logique d'un mal de gorge intense qui ne part pas, c'est la fièvre, c'est la toux, c'est le rhume. C'est la suite logique. C'est normal. Mais c'est normal pour ce monde, mais c'est pas normal pour Dieu. D'où le besoin de rénover nos pensées. Ça aurait été peut-être normal de tomber malade parce qu'il pleuvait pas mal ces temps-ci et que je suis souvent dehors, j'aurais pu juste prendre froid, c'était normal. Ça, c'est la pensée du monde, mais elles amènent la maladie, la mort. Pour la pensée du Dieu, c'est pas normal. Quand c'est normal pour le monde de tomber malade parce que le temps n'est pas bon, pour Dieu, ce qui est normal, c'est que nous soyons en bonne santé, pleinement établis en lui. Rénovation mentale. Et combien de fois, même en tant que chrétien, nous sommes dans des situations terribles. J'entends des chrétiens dans des situations vraiment qui m'attristent beaucoup. Je me dis, mais non, tu sais, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est peut-être normal pour le monde. Ça aurait peut-être été normal si tu n'étais pas en Christ. Mais c'est pas normal si tu es en Christ. Si tu es en Christ, ce qui est normal, c'est ce que Dieu dit. Le standard pour ta vie, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu et pas celle de ce monde. Donc nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nourrissons notre esprit. Nous nourrissons nos pensées. Et ça nourrit notre image intérieure qu'on a vue la semaine dernière. Donc ce que nous allons contempler, nous allons l'atteindre. Et en même temps, ça nous connecte, comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Donc quand je médite la parole de Dieu, je commence à avoir l'image de ce que Dieu dit de moi, ce qu'il veut pour moi, et je commence à me porter vers cette image. Et en même temps que je médite cette parole de Dieu, je me connecte à sa source, c'est-à-dire à Dieu, et j'ouvre le robinet de la vie de Dieu pour couler en moi. Parce que nos pensées sont un connecteur. Et si nous prenons cette habitude de méditer la parole de Dieu, de penser comme Dieu pense, de penser à ce que Dieu dit, quand une autre pensée va passer, nous saurons tout de suite la détecter et la rejeter. Vous n'êtes pas obligé de donner accès à n'importe quelle pensée. Et on voit qu'il y a une force, une connexion qui se fait à travers nos pensées. Regardons encore Matthieu 18. Je sais que ça paraît peut-être très théorique, hein. Peut-être même très presque moralisateur, ce que je tente de faire aujourd'hui. Je suis pas dans... Vous savez, moi j'aime bien, mais le Seigneur nous utilise de différentes façons. Et moi j'aime bien ce petit côté vraiment que le Seigneur me donne parfois, d'encourager, d'être un peu excité, de... Waouh, toutes les promesses, toutes les bontés de Dieu, et ça nous fait du bien. Mais il y a des moments aussi où Dieu nous dit maintenant, on s'assied et on comprend le plan de Dieu et on avance. Donc là, on prend le temps, on décortique, on explique doucement, progressivement. Mais rassurez-vous, on va progresser et vous allez voir le bien que ça va vous faire. Vous savez, je pourrais passer tous les dimanches, et je le fais le maximum que je peux parce que j'aime ça, à proclamer les promesses de Dieu, à déclarer qui vous êtes, ce que vous pouvez faire en lui. Mais si je passe tous les dimanches à ne faire que ça, vous n'y parviendrez jamais. Parce que vous n'aurez pas compris comment vous allez gérer ce que vous entendez. Vous n'aurez pas compris comment cela doit devenir votre pensée, votre mode de raisonnement et comment vous allez vous y porter. Et c'est une fois encore ce qui explique que des gens vont dans certains endroits, dimanche après dimanche, ils se font encourager, ça va bien jusqu'à midi et demi, une heure, et à 15h, ils sont déjà dans la déprime, dans la dépression. Pourquoi ? Parce que ça ne suffit pas d'entendre ou d'avoir la chose qui passe comme ça. Il nous faut mettre en place les choses qu'il faut. Il nous faut recevoir pleinement, travailler avec ces choses-là, être ce que la Bible déclare des disciples, et un disciple, il est sous l'enseignement de son maître jusqu'à devenir conforme à son maître. Et donc, on doit comprendre comment on fonctionne et comment Dieu veut que ça fonctionne. Donc, Matthieu 18, verset 18. Passage, bien sûr, que vous connaissez. Hein. Je vous dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est que on voit qu'il y a une force et une vérité dans le fait que deux personnes se mettent d'accord, c'est-à-dire qu'ils aient une même pensée pour demander quelque chose au Père. Et le Père va leur donner ce pourquoi ils se sont mis d'accord. Donc en se mettant d'accord, en ayant une même pensée, en venant devant Dieu, eh bien nous allons toucher le cœur de Dieu et Dieu va répondre à ces choses-là. Et surtout, verset 20, car, c'est-à-dire que c'est lié à ce qui se passe auparavant, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrement dit, si vous êtes, quand nous sommes assemblés en son nom, certes nous sommes là physiquement, mais nous avons une même pensée. Nous nourrissons la pensée que Jésus nous a sauvés, qu'il nous aime, qu'il est là, qu'il a quelque chose de bon pour nous. Vous m'avez dit d'accord au début de ce message. Donc nous sommes dans une même pensée, nos pensées sont tournées vers Jésus, vers ce qu'il a en réserve, vers sa promesse, vers sa parole. Nous avons tous cette même pensée et qu'est-ce qu'il nous a dit? Si nous avons cette même pensée, il est au milieu de nous. Autrement dit, en unissant notre pensée sur Dieu, eh bien nous attirons, il est là, parce que nous sommes dans une même pensée pour le rencontrer. Dans le livre des Actes, il est dit qu'au début de l'Église, les chrétiens étaient une même pensée, un même cœur, une même âme. Ils avaient même tout mis en commun physiquement, mais ils avaient une même pensée. Et l'Église, à ses commencements, était puissante, efficace, glorieuse. Mais nous avons un appel encore plus grand. Mais vous montrez que nos pensées nous connectent. Parce que nous sommes une même pensée pour rencontrer Dieu, nous connectons à Dieu, nous connectons à sa vie, à sa pensée. Quand nous sommes une même pensée, alors que j'avance ici, et je vous l'ai dit la dernière fois, et je le redis parce que c'est une vérité, et je sens la différence. Dans certains endroits, vous savez, des fois je voyage, et même avant, quand on était encore en métropole, on servait dans une église locale, et puis on circulait souvent, j'avais souvent des invitations, et je peux vous garantir qu'il y a une différence dans ce que vous pouvez amener, dans là où vous pouvez aller dans la prédication, en fonction des personnes qui sont en face de vous. Quand nous sommes une même pensée pour écouter ce que Dieu a à nous dire, pour moi c'est facile de prêcher la parole de Dieu. Parce que nous sommes une même pensée qui nous connectons et qui attendons et permettons à la vie de Dieu de couler, donc il pourvoit, il nous nourrit. Mais si nous ne sommes pas connectés dans cette même pensée, je peux essayer de vous donner un message, parce que je suis connecté à Dieu et je suis dans la foi pour que vous receviez quelque chose, mais c'est tout à fait différent, les choses ne coulent pas de la même façon, et vous n'en bénéficiez pas autant. Il y a une puissance, lorsque vous unissez votre pensée, vous vous connectez. Dans Jean 17, Jésus priait que nous soyons un, comme lui-même est un avec le Père. Une même pensée, un même esprit, un même raisonnement, une même mentalité, un même but, un accord parfait. Et nous pouvons être réellement un avec le Père, en unissant notre pensée à la pensée du Père, pour que la vie de Dieu puisse couler en nous. Et d'une façon très concrète, je voudrais juste vous montrer, on va finir avec ça, un exercice pratique que vous pouvez faire, une façon très concrète de connecter, de vous connecter à la vie de Dieu, de vous connecter à Dieu lui-même par vos pensées. Puisque nos pensées nous connectent à leur objet, je ne vais pas vous montrer comment vous connecter au diable, vous le savez déjà, il vous suffit d'écouter et d'accueillir ce que vous entendez toute la journée, il vous suffit de recevoir les mauvais rapports, de regarder en termes de ce qui n'est pas possible, de ce qui n'est pas là, mais je vais vous montrer une façon très pratique, très concrète, de comment on peut, par nos pensées, se connecter à Dieu, à la vie de Dieu. La Bible déclare que la pensée de l'esprit, c'est la vie. Et on a besoin de cette vie, n'est-ce pas? On a besoin de la vie de Dieu, jour après jour. Et on peut s'y connecter très concrètement. Alors regardez avec moi le psaume 4. Psaume 4. Et au verset 5, la deuxième partie du verset. Il est dit, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et en parallèle, le psaume 63. Le psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, verset 7, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, à la proie. Le roi se réjouira en Dieu, et quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Mais regardez ces deux versets. Parlez dans vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et ensuite au verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Et au verset 9, mon âme est attachée à toi. Donc ici on voit comment, d'une façon très concrète, très simple, vous pouvez soupirer après Dieu, vous pouvez vous connecter à lui par vos pensées. Il n'est pas question ici de parler, de faire. Il dit simplement, je m'allonge sur ma couche, je médite sur toi, je me tais, je reste tranquille devant toi. Je me connecte à Dieu par mes pensées. Donc très concrètement, vous pouvez vous poser calmement sur votre couche, donc votre lit, sur votre canapé, dans un fauteuil où vous êtes à l'aise, vous mettez à l'aise tranquillement. Et vous restez là dans le calme, dans le silence. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible. Il faut lire sa Bible et il faut prier. Mais je dis que par vos pensées, vous vous connectez à Dieu. Donc prenez des temps. Oui, lisez la Bible. Il faut, parce que c'est ça qui vous amène la pensée de Dieu à la base, puisque ce livre est le recueil de ses pensées. Donc lisez votre Bible tous les jours, vous avez besoin de vous nourrir. Priez tous les jours, vous avez besoin de parler avec Dieu. Mais aussi, prenez le temps de vous poser calmement, tranquillement. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible. Vous méditez sur lui, vous pensez à lui, vous pensez à ce que Dieu dit, vous pensez à ce que Dieu fait, vous pensez juste au Seigneur. Vous voyez comment il est grand, comment il est puissant, comment devant son trône tout est lumineux, tout est glorieux. Vous savez, moi rien que d'y penser, je suis à la limite d'avoir la chair de poule quelquefois, et même en cet instant, simplement par vos pensées, vous vous connectez, vous pensez à ces choses-là, puis vous respirez profondément dans la présence de Dieu. Et si vous êtes un peu chargé, vous respirez tranquillement. Et pendant que vous respirez, vous expirez vos soucis, vos fardeaux, vos craintes, vos doutes. Dites Seigneur, et puis vous inspirez cette bonne présence de Dieu. Vous pensez à lui, vous pensez à sa présence, pensez à sa bonté. Et quand vous inspirez, vous recevez pleinement la vie, vous laissez remplir de l'atmosphère de Dieu. Vous laissez le soleil de justice briller sur votre visage. Vous laissez le souffle de l'Esprit de Dieu caresser votre peau. Vous vous mettez juste devant Dieu comme ça. Oui, je sais, parfois je suis un peu poétique sur les bords, mais faites cet exercice à la maison. Vous savez, si vous regardez autour de vous, dans le monde, on essaye de faire de la méditation transcendantale, on essaye de faire du yoga, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye de copier ce que Dieu a établi pour que l'homme puisse se connecter à lui. Et nous n'allons pas tourner nos pensées sur des choses occultes et faire des choses bizarres. Nous allons juste méditer, pratiquer la parole de Dieu. Tranquillement, dans un lieu calme, dans le repos, je me tiens devant Dieu. Mes pensées sont sur lui, je médite sur lui. Et je me laisse remplir, touché par sa présence. Je ne parle pas, je ne prie pas, je ne fais rien. Je reste là. Et je vous garantis que quand vous avez un moment comme ça, vous ressortez rechargé. La prière est puissante. Vous pouvez prier parfois un bon moment. C'est bien, Dieu vous touche, mais quand vous méditez comme ça sur Dieu, quand vous vous connectez à sa présence, vous pouvez ressentir physiquement sa vie, vous êtes communiqué, son onction, vous êtes communiqué. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Donc voilà une manière très concrète de se connecter à Dieu, juste par nos pensées. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas fabriqué, c'est la Bible. On vient de lire au moins deux versets qui confirment cette chose, et la Bible déclare que toute vérité doit être prouvée sur le témoignage d'au moins deux ou trois. On a eu deux versets qui nous ont dit ça, de méditer tranquillement. Taisez-vous, méditez sur les bontés de Dieu, sur ses promesses. Donc on peut faire cet exercice-là, se nourrir de ce que Dieu dit. Et plus encore que juste nous faire du bien et nous transformer, ça va aussi créer une atmosphère autour de nous. Quand on pense à la bonté de Dieu, quand on pense à ses bienfaits, à ses promesses, ça va créer une atmosphère de foi, une atmosphère de paix, une atmosphère de bien-être. Mais quand on pense à nos soucis, à nos difficultés, à la peur, à la crainte, ça crée une atmosphère de stress, de tension. Et vous savez quoi, ce que je viens de vous dire, c'est un excellent remède pour quelqu'un qui peut-être est stressé, pour quelqu'un qui peut-être connaît de l'hypertension, quelqu'un qui même peut être dans la dépression. C'est un bon remède. Juste mettez-vous tranquillement, méditez sur les promesses, les bienfaits de Dieu. Laissez-vous remplir par sa présence, laissez-vous toucher par vos pensées, vous vous connectez. Donc commençons à nous connecter à Dieu, à la vie divine. La pensée de l'esprit, c'est la vie. La pensée de la chair, c'est la mort. Donc c'est bon de nous laisser toucher par Dieu, de le laisser travailler dans notre vie, de le laisser nous montrer les choses qu'il a en réserve pour nous, tout ce qu'il a préparé. Et j'ai pas noté cette référence, mais il y a un passage dans la parole où il prie, je crois que c'est un psaume aussi, il dit « Sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Si quelqu'un la trouve, vous pourrez me souffler la référence. Et ça, c'est une parole de Dieu. « Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, je crois que c'est une prière qu'on peut faire humblement à Dieu en disant « Seigneur, sonde-moi, regarde où j'en suis. » Et remarquez encore la connexion, je finis avec ça, mais où il dit « Connais mes pensées et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Encore une confirmation. Ce que je pense détermine la voie que j'emprunte. Donc, nos pensées sont d'une importance cruciale, cruciale. Et Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Dieu veut nous faire briller sa lumière dans nos cœurs. Dieu veut nous illuminer de sa connaissance pour que justement nous sachions où nous en sommes. Et peut-être que ce matin, si dans certaines choses nous ne sommes pas sur la bonne voie ou nous ne nourrissons pas la bonne pensée, bien simplement laissons le Saint-Esprit mettre le doigt dessus pour nous et nous montrer là où ce n'est pas ok, là où ce n'est pas bon, pour que nous puissions corriger, pour que nous puissions être réajustés par le Seigneur et nourrir la bonne chose, être connectés à la bonne chose et laisser le Seigneur nous amener dans la bonne voie, laisser ses bienfaits, sa bonté agir sur nous, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse avoir la pensée de Dieu, nourrir cette pensée dans nos cœurs, dans nos êtres entiers, partager la même pensée que Dieu. On n'a pas envie d'être juste des religieux qui se conforment à quelque chose, mais on veut réellement vivre cette relation avec Dieu, où on est transformé par une rénovation mentale. La Bible dit que pour certains, l'évangile est encore voilé, parce qu'il y a beaucoup d'influences dans ce monde qui peuvent nous retenir de connaître Dieu réellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie sa lumière. Et la Bible dit, c'est dans 2 Corinthiens 4, que Dieu a fait resplendir sur nous la lumière de sa connaissance, pour que nous qui autrefois étions ténèbres, nous puissions venir à la lumière. Et ce matin, quel que soit peut-être notre état ou notre façon de penser, bien Dieu veut faire resplendir sa lumière sur nous, sa connaissance, pour que nous puissions penser les bonnes choses et nous connecter à la bonne source, nous connecter à lui et à sa vie. Et c'est ce qu'il veut faire. De la même façon que à la création, la terre était informe et vide. De la même façon que c'était les ténèbres, mais Dieu a fait briller sa lumière. Dieu a mis les choses en ordre et je crois que le Saint-Esprit va nous conduire et va nous aider. Il nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc nous avons un travail à faire, mais il nous donne tous les instruments, toute la direction qu'il faut. Et ce matin, on va vraiment encore laisser le Seigneur nous éclairer. On ne va pas se contenter de prier « Seigneur, change ma mentalité ». Je ne vais même pas vous imposer les mains pour changer vos pensées. Dieu n'a pas dit qu'il changerait nos pensées. Il nous a dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». On dit « C'est ta responsabilité de changer tes pensées ». On peut prier que le Seigneur nous éclaire. Je peux prier pour vous, que le Seigneur vous montre, ouvre vos yeux, mais je ne peux pas vous obliger à penser quelque chose. Nous sommes chacun individuellement le seul à pouvoir choisir ce que nous pensons. Quelqu'un peut vous répéter les mêmes choses toute la journée, il peut pas vous forcer à le penser. Et Dieu lui-même ne va pas nous forcer à penser comme il pense. Il nous dit « Faites ce travail vous-même. Méditez ma parole. Méditez mes promesses. » Parce que nos pensées nous connectent. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, alors que cette révélation va continuer de travailler dans nos esprits à chacun, on va comprendre, on va être vigilant. Et à partir d'aujourd'hui, on va plus être trompé ou piégé par l'ennemi ou par les choses de ce monde, mais on va se connecter uniquement à la vie de Dieu. On va plus rien laisser nous connecter à autre chose. On va plus se laisser tromper, entraîner dans les mauvaises voies, mais on va être entraîné dans la voie de Dieu. On va penser les pensées de l'esprit. On va penser la même chose que Dieu pense. Moi, c'est extraordinaire cette perspective de se dire que Dieu un jour a pensé une chose et il l'a mis dans sa parole. Et aujourd'hui, moi-même, je peux penser la même chose. Vous vous rendez compte, vous pensez la même pensée que Dieu. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il veut pas nous laisser nous perdre à penser des pensées du monde qui nous connectent au mal, mais il veut que nous puissions être connectés à la vie. Parce qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous restaurer, nous guérir, nous transformer, nous faire progresser, pour nous bénir et pour que nous-mêmes nous soyons une source de bénédiction. C'est ce qu'il veut pour nous. Alors recevons son conseil, réalisons que nos pensées nous connectent et soyons connectés à la bonne chose. Choisissons la bonne pensée, choisissons de nous brancher à la bonne source. Nous verrons la puissance de Dieu, nous vivrons encore plus la métamorphose à laquelle il nous appelle et il sera glorifié dans nos vies. Amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.